Bon, là, il faut parler de cette transaction, je vais dire controversée, du Canadien hier soir. Donc, on a appris que Galchenyuk partait pour l'Arizona. Alain Huzreau est là, Philippe Quentin également. Et les gars, vous savez que depuis 8 heures ce matin, on demande aux auditeurs de notre radio de se prononcer sur cet échange. D'après vous, est-ce que les gens sont pour ou contre l'échange d'hier?
Moi, ce que je lisais hier sur les médias sociaux, c'était que les gens réagissaient très vivement. Ils trouvaient pas ça emballant. Maintenant, est-ce que ça évolue? C'est ce que j'ai hâte d'entendre.
Alain, t'en penses quoi, toi?
Tantôt, la tendance semblait être pas mal serrée, mais en faveur de la transaction. J'ai comme l'impression que cette tendance-là, s'avère.
Non seulement s'avère, mais ça s'est approfondi.
Ah, oui.
On est à 58 % de oui, 42 % de non. Donc, 58 % des gens qui nous ont écrit depuis 8 heures ce matin sont en faveur de l'échange et 42 % considèrent que ce n'est pas une bonne idée.
Ouais. C'est pas si étonnant dans la mesure où les gens ont soif de changement chez le Canadien. Je pense que ça, c'est la première conclusion qui s'impose après une saison aussi désastreuse où il n'y a vraiment aucun joueur qui s'est distingué, Galchenyuk compris. Les gens disent, hey, on n'est pas pour revenir avec la même équipe au mois de septembre prochain. Là, ça prend du neuf, ça prend du nouveau. Et finalement, ça revient un petit peu à ce que Jeff Molson a dit lors de son bilan de fin de saison. Rappelez-vous, c'est une déclaration qui était importante. Puisque c'était le mandat qu'il confiait à son directeur général, Marc Bergevin, et il a dit « le statu quo n'est pas une option ». Alors donc, ça prenait des changements, et quand on jumelle cette déclaration-là de Jeff Molson à celle de Marc Bergevin dans la même conférence de presse, où il a dit « on a eu un problème d'attitude cette saison », ben là, on fait 1+1, et on voit que ça conduit à l'échange de Galchenyuk, qui n'a jamais été reconnu pour être un leader du Canadien, puis d'être un rayon de soleil jour après jour. Il y a eu des épisodes plus durs avec Galchenyuk, alors j'ai l'impression que ça aussi ça a joué.
Philippe, d'ailleurs, sur la messagerie texte, on le soulève, il y a quelqu'un qui nous écrit « Trois choses ont dérangé le Canadien avec ce joueur-là. C'est démêlé avec sa blonde. » Sa semaine en Floride avec Nathan Beaulieu et les rumeurs de cure de désintox.
Moi, j'ai l'impression que au bout du compte, il y a aussi les problèmes de hockey qui parlent plus que tout. Si Galchenyuk avait rempli ses promesses comme troisième choix au repêchage, j'ai l'impression que la suite des choses aurait pu être différente. Mais encore une fois, on voit que le Canadien a eu des ennuis à gérer ce jeune joueur-là. C'est un peu une marque de commerce de l'organisation depuis quelques années. Quand arrivent des joueurs qui ont un peu plus de talent puis qui sont peut-être un peu plus durs à gérer. Le Canadien a des ennuis. On l'a vu avec Subban, où il ne faisait pas l'unanimité auprès de la direction, là, c'est le moins qu'on puisse dire, puis avec Galchenyuk aussi. Maintenant, Galchenyuk, c'est sûr que lui, c'est un gars qui a énormément de talent. Il a un super tir sur réception, il est capable de créer des choses à l'attaque, mais moi, j'ai toujours trouvé que sa vision du jeu était, somme toute, plutôt modeste. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, tu sais, il y a des gens hier, je voyais, qui disaient c'est quand même un marqueur de 30 buts. Oui, c'est vrai qu'il a marqué 30 buts dans une saison dans la Ligue nationale, Galchenyuk, mais sa grosse poussée offensive, il l'avait eu après que l'équipe ait été, dans les faits, éliminée de la course aux séries éliminatoires. Alors, c'est la saison 2015-2016. Le Canadien n'a pas participé aux séries et Galchenyuk avait explosé au mois de mars alors que ça comptait plus vraiment. Et quand il a eu la chance de se faire valoir en séries éliminatoires, on le sait, ça a été plus difficile. Et même il y a 2 ans, quand Claude Julien est arrivé comme entraîneur, il s'est même pas vraiment fié sur lui en séries éliminatoires. Il l'a relégué au 4e trio. Alors là, il y a un message direct de la direction.
Ouais, il était rendu, Philippe, je le mentionnais plus tôt, un spécialiste de l'avantage numérique.
Ouais.
Et à partir du moment où un joueur comme lui n'est pas capable d'aider son équipe à 5 contre 5, je pense que le Canadien a fait le choix que s'il devait être éclair, ce serait ailleurs.
Oui, puis où il a été bon, c'est aussi à 3 contre 3, là, en prolongation, ouais. Où il a marqué des buts importants, mais encore une fois, énormément d'espace sur la patinoire, donc ça change beaucoup de choses.
Il y a 2 ou 3 personnes qui nous ont soulevé le fait que le prochain joueur échangé pourrait être Pacioretty.
Ouais. C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette année, tout le monde s'attendait à l'échange de Pacioretty, et ça va peut-être arriver aussi. Là, il reste encore... un gros 2 semaines là au Canadien pour faire bâtir son équipe de la saison prochaine. Mais l'an dernier, souvenez-vous, à la même époque, c'était Galchenyuk. Tout le monde se demandait si Galchenyuk allait rester. Et finalement, il est resté une saison de plus. Et puis là, il part cette année après une autre saison pas très, très convaincante. Mais juste pour revenir au fond de cet échange-là, on parle beaucoup de Galchenyuk, mais il y a quand même un risque là avec Max Domi. Il n'y a pas eu une grosse saison l'an dernier, ça c'est l'évidence même. C'est pas un joueur qui a progressé au cours des trois dernières années. Au contraire, sa meilleure saison, ça a été sa première dans la Ligue nationale. C'est certainement pas un marqueur de but naturel. Alors pour une équipe qui a besoin de buts, pour une équipe qui l'an dernier, la saison dernière, un de ses problèmes principaux, ça a été cette incapacité à marquer régulièrement des buts, à concrétiser les chances en attaque. Je pense pas que c'est Max Domi qui va venir régler ce problème-là. Donc au niveau de la contrepartie obtenue pour le Canadien, moi ça me laisse un petit peu sur ma soif.
Ouais, ben je mentionnais Philippe tantôt. On le sait, le plafond, je pense, de Galchenyuk est supérieur à celui, le potentiel, si tu veux, de Max Domi. Mais on sait un peu plus à quoi s'attendre. Tu parlais tantôt de... Puis ça, je pense qu'on va être d'accord avec ça. Sur le QI hockey des deux joueurs. Je pense que celui de Domi est supérieur.
Il est plus élevé, oui.
Ouais, je le pense. Et il y a des choses qu'il a fait au cours de la dernière saison qui ne paraissent peut-être pas sur la carte de pointage. J'en ai parlé, Philippe, à un moment donné. La cote de demi n'est pas si mauvaise qu'elle en a l'air. J'ai l'impression qu'avec le Canadien, il va peut-être trouver sa place.
Ouais, c'est même le directeur général des Coyotes disait hier, il s'en est trop mis sur les épaules. C'est comme s'il portait le poids de l'équipe sur ses épaules.
Philippe, un petit mot sur la Coupe du Monde, parce que je t'entendais mentionner le fait que tu étais content, mais pas content, finalement, de la transition.
Ben, je suis content. Bravo, c'est extraordinaire de voir que la Coupe du monde de soccer va être présentée en partie au Canada et que la candidature unifiée Canada-États-Unis-Mexique l'a emportée finalement. Je pense que c'est une bonne nouvelle, il y a tout lieu de s'en réjouir. D'un autre côté, je trouve encore que dans la division des matchs, le Canada et le Mexique ont un peu l'air des faire-valoir des Américains. Il y a 80 matchs dans cette Coupe du monde-là de 2026. Il y en a 60, Marie-Hélène, aux États-Unis. 60. Ouais, ça en reste 10 pour le Canada et ça en laisse 10.
C'est pas des tonnes, ouais.
Mais c'est ça, tu sais. Alors, candidature unifiée, tu sais, pour moi, une vraie candidature unifiée, il y aurait à tout le moins un meilleur équilibre au niveau de la présentation des matchs. OK, on veut faire des États-Unis le point d'ancrage du tournoi, c'est très bien, mais qu'on donne 40 matchs aux États-Unis puis qu'on partage 20-20 Canada-Mexique. Mais là, ça va tellement d'un côté. Et tu te demandes, coudonc, est-ce qu'on est là comme faire valoir des Américains pour...
Écoute, non, la question est bonne à ça.
Ben oui.
Dans ce temps-ci, ouais.
Ben oui, parce que le vote, on savait que ça serait serré à cause de l'image que renvoient les États-Unis à l'heure actuelle. Là, c'est pas tous les pays qui étaient emballés. Alors, est-ce que le Canada et le Mexique viennent, tu sais, adoucir cette image-là? Alors, il y a sûrement un petit peu de tout ça. Et moi, je trouve que ça a été négocié de façon un peu ordinaire. Je pense qu'on aurait pu avoir plus de matchs.
Mais là, il y a des villes qui ont déjà mentionné qu'elles voulaient pas avoir de matchs chez eux, comme Chicago, Minneapolis, Vancouver aussi.
Ouais, au Canada, Vancouver. Alors, au Canada, il reste 3 villes pour présenter des matchs. Edmonton, Toronto, Montréal. Et là aussi, il y aura un débat à faire. Combien de matchs à Montréal? Combien de matchs à Edmonton, combien de matchs à Toronto, tout ça reste à décider.
Bon, on a parlé plus tôt ce matin, Philippe, avec des Français qui célébraient la première, qui célébraient à moitié la première victoire de la France parce qu'apparemment leur équipe a plus ou moins bien joué.
Ouais. Mais ils n'ont pas à célébrer à moitié. Ils peuvent bien célébrer. C'est important pour les Français de commencer en allant chercher la victoire. Ça a été très difficile, mais c'est leur jeune vedette, Paul Pogba, qui a contribué à faire la différence. Alors je trouve que c'est quand même bien lancé pour eux.
Merci beaucoup, Philippe Quentin.